Chapitre 33. Une affaire d'écarlate. Après avoir frôlé les cheveux de Ninevé, le couteau alla se ficher dans le panneau de bois contre lequel elle était adossée. Tressaillant sous son bandeau, la jeune femme regretta pour la énième fois de ne pas avoir une natte décente, plutôt que des mèches bouclées cascadant sur ses épaules. Si cette lame n'en avait coupé qu'une seule...
« Espèce d'idiote !»
pensa amèrement l'ancienne sage-dame.
« Triple buse d'idiote !»
Avec le foulard plié qui lui recouvrait les yeux, elle ne voyait qu'une fine ligne de lumière vers le bas. Une lumière encore assez vive, semblait-il. Suffisante, en tout cas, même si on était en fin d'après-midi. Car enfin, ce type ne se serait pas amusé à lancer ses couteaux sans y voir, pas vrai? Le suivant se planta de l'autre côté de sa tête, si près qu'elle sentit les vibrations de l'acier. Tellement près, d'ailleurs, que son oreille n'était pas passée loin d'un désastre. Par la lumière. Elle allait tuer Tom Merrilin et Valan Luka, et peut-être bien tous les autres hommes qui lui tomberaient sous la main, histoire de faire bonne mesure.
« Les poires !»
cria Luka, comme s'il n'était pas à 30 pas d'elle, mais à 300. Ou comme si elle avait porté un bandeau sur les oreilles, pas sur les yeux. Plongeant une main dans la sacoche accrochée à sa ceinture, Ninevé en sortit une poire, qu'elle posa en équilibre sur sa tête. Dire qu'elle n'y voyait rien. Une crétine aveugle et entourée de couteaux. Sortant deux autres poires, elle écarta les bras, tenant chaque fruit par sa queue. Les lancers n'ayant pas encore repris, elle ouvrit la bouche pour dire à Tom Merrilin ce qu'elle lui ferait s'il les gratignait. Tchunk, tchunk, tchunk. Les trois lames s'étaient succédées si vite que Ninevé en aurait crié de terreur si sa gorge n'avait pas été si serrée. Dans sa main gauche, elle ne tenait plus qu'une queue de poire. De l'autre côté, le fruit était transpercé de part en part et tremblait dans sa main. Au jus qui coulait dans ses cheveux, la troisième cible avait été touchée aussi. Arrachant son bandeau, Ninevé avança vers Tom et Luka, qui souriaient tous les deux comme des fous furieux. Avant qu'elle ait pu commencer à les injurier, Luka s'exclama.
« Tu es magnifique, Nana. Ton courage est superbe, mais tu es encore plus superbe que lui. »
Une main sur le cœur, l'homme fit une révérence, déployant sa ridicule cape rouge.
« J'appellerai cette figure la rose au milieu des épines, même si franchement tu es plus belle que n'importe quelle rose. »«
Pour rester plantée là comme une souche, il ne faut pas beaucoup de courage, »
grommela l'ancienne sage-dame. « Une rose ? Eh bien, elle allait leur montrer les épines à ses deux cuistres.
« Écoute-moi, Valan Luka. »
Courage ? Que dis-je ? C'est de bravoure qu'il faudrait parler. Tu n'as même pas tressailli. Franchement, je n'aurais pas le cran de faire ça. »
Enfin une vérité dans un flot de mensonges, constata Ninevé.
« Je ne suis pas plus courageuse que nécessaire, »
dit-elle d'un ton plus conciliant qu'elle l'aurait voulu. Quand un homme s'extasiait sur votre courage, il n'était pas toujours aisé de lui passer un savon. Les compliments de ce genre faisaient en tout cas mouche, contrairement aux niaiseries sur les roses. Comme s'il assistait à une scène comique, Tom lissa sa longue moustache blanche.
« La robe !»
fit Luka avec un grand sourire.
« Tu seras magnifique dedans et...
Non !»
rugit Ninevé. En un clin d'œil, le patron de la ménagerie venait de perdre tout ce qu'il avait gagné. Clarine s'était chargée de confectionner la robe que Luka voulait absolument faire porter à Ninevé. De la soie encore plus rouge que l'absurde cape. Au point d'en être écarlate, oui. Une couleur idéale pour cacher le sang si la main de Tom tremblait.
« Nana, la beauté en danger exerce un attrait irrésistible sur les gens. »
susurra Luka comme s'il soufflait des mots galants à l'oreille de sa belle.
« Tous les regards seront braqués sur toi et tous les cœurs battront à l'unisson du tien, fascinés par ta beauté et ton héroïsme. »
« Si cette robe te plaît tant, eh bien tu n'as qu'à la porter. »
Outre la couleur, Ninevé n'était pas disposée à dévoiler autant sa poitrine en public. Et tant pis si Clarine pensait que c'était approprié. D'ailleurs, la tenue de scène de Latel, constellée de paillettes noires, avait un col qui lui montait presque jusqu'au menton. Une robe de ce genre serait... Quelle mouche la piquait! Elle n'avait aucune intention d'aller jusqu'au bout de cette histoire. Si elle avait consenti à ses séances d'entraînement, c'était pour que Luka cesse de venir gratter chaque nuit à sa porte, prétendument pour la convaincre de participer au spectacle. Habile à changer de sujet quand ça s'imposait, le patron de la ménagerie demanda soudain.
« Eh bien, que t'est-il arrivé, ma pauvre »
demanda-t-il d'un ton débordant de sollicitude. Ninevée tressaillit quand il effleura son œil au beurre noir. Pour une fois, il avait choisi une diversion qui tombait mal. Continuer à l'implorer d'enfiler cette fichue robe aurait été une bien meilleure idée.
Je n'ai pas aimé la façon dont cet œil me regardait ce matin dans mon miroir. Alors je l'ai mordu.
Le ton et le rictus de Ninevée incitèrent Luca à retirer vivement sa main, comme s'il craignait qu'il lui prenne de nouveau la fantaisie de mordre. Lissant toujours sa moustache, Tom était rouge comme une pivoine à force de se retenir d'éclater de rire. Bien entendu, lui, il savait ce qui s'était passé. Et dès que Ninevée aurait tourné le dos, il raconterait sa version des faits à Luca. Les hommes ne pouvaient pas s'empêcher de bavasser. Chez eux, c'était congénital. Et rien de ce que tentaient les femmes ne parvenait à les débarrasser de cette manie. Alors que le soleil atteignait presque la cime des arbres, à l'ouest, la lumière était bien moins vive que Ninevée l'avait cru.
« Si tu essaies encore ce truc au crépuscule !»
dit-elle à Tom.
« Je... »
Elle brandit un poing à l'intention du trouvert.
« Enfin, on n'y voit presque plus rien !»«
Si je te suis bien, tu veux que nous remettions à demain le passage du numéro où c'est moi qui porte un bandeau ?»
Il plaisantait. Ce n'était pas possible autrement. Voyons, il ne lançait quand même pas ses couteaux les yeux bandés.
« Très bien, Nana. Plus d'entraînement sans éblouissante lumière. »
Alors qu'elle s'éloignait, relevant l'ourlet de sa jupe, Ninevée s'avisa qu'elle venait d'accepter implicitement de participer à cette folie. Et aussi sûrement que le soleil se coucherait ce soir, ses amis feraient tout pour l'obliger à tenir parole.
« Triple bus de crétine !»
La clairière où il s'était exercé, enfin où Tom s'était exercé, que la lumière les brûle, lui et Luca, se trouvait à une courte distance du camp dressé un peu plus loin le long de la route. À l'évidence, Luca entendait ne pas effrayer les animaux, au cas où Tom aurait planté un couteau dans le cœur de sa partenaire. S'il insistait pour qu'elle porte la robe, c'était pour pouvoir lorgner une partie de son anatomie qu'elle avait l'intention de ne montrer à personne, sauf à l'âne. Tant qu'à faire, que la lumière le brûle aussi, cette tête de pioche de mal obtus. Dommage qu'il ne soit pas là pour qu'elle le lui dise de vive voix, et pour qu'elle puisse s'assurer du même coup qu'il était sain et sauf. Brisant une tige morte d'origan des marais, elle l'utilisa comme un fouet pour décapiter impitoyablement sur son chemin les malheureux brins d'herbe qui osaient pointer la tête hors du tapis de feuilles mortes. La nuit précédente, lui avait rapporté Elaine, Egwene avait mentionné des combats aux Caïriennes. Des escarmouches contre des brigands, contre des Caïrienniens qui considéraient tous les Aiel comme des ennemis, et contre des soldats d'Andorre, qui tentaient d'annexer le trône du soleil au profit de Morgaz. Chaque fois ou presque, l'âne y avait participé. Dès que Moiraine laissait la bride sur le cou, il se débrouillait pour ferrailler, comme si un sixième sens infaillible le guidait vers les champs de bataille. À sa propre stupéfaction, Ninevée espérait maintenant que l'Aes Sedai donnerait le moins de mous possible à la laisse du champion. La preuve que tout pouvait arriver. Le matin même, Elaine s'était encore montrée très perturbée que des soldats de sa mère soient entrés aux Caïriennes et affrontent les Aiel de Rand. Ninevée, elle, s'en faisait surtout à propos des brigands. Selon Egwene, si un témoin pouvait reconnaître un objet volé dans les biens d'un brigand, ou attester l'avoir vu tuer quelqu'un ou brûler ne serait-ce qu'un cabanon, Rand pendait sur le champ le bandit. S'il ne tirait pas lui-même sur la corde, ça revenait presque au même, car il assistait à toutes les exécutions, le visage plus dur et plus froid que le flanc des montagnes. Ça ne lui ressemblait pas, un si gentil garçon. Quoi qu'il lui soit arrivé dans le désert des Aiel, ce n'avait pas été pour son bien. Mais Rand était bien loin, et les problèmes de Ninevée et d'Elaine ne semblaient pas prêts d'être résolus. À moins d'un quart de lieue au nord, le fleuve Eldar était traversé par un seul et unique haut pont de pierre, soutenu par des piles métalliques épargnées par la rouille qui brillait au soleil. Des vestiges d'un passé lointain, sans doute, et peut-être même d'un âge antérieur. Lorsqu'ils étaient arrivés, à midi, l'ancienne sage-dame avait poussé jusque-là, histoire d'inspecter le terrain, et elle n'avait pas aperçu l'ombre d'un bateau digne de ce nom. Elle avait vu des barques, de petits bateaux de pêche qui écumaient les berges semées de roseaux, d'étranges embarcations plates que des hommes agenouillés faisaient avancer à grands coups de rame, et même une barge qui semblait embourbée. Avec cette chaleur persistante, trop d'eau s'évaporait pour que les bords du cours d'eau ne se transforment pas en cloaques. Dans tout cela, Ninevée n'avait rien repéré qui aurait pu les transporter avec diligence, ses compagnons et elle. Les transporter vers où exactement? À sa grande honte, elle était toujours incapable de le dire. Même en se creusant la cervelle, impossible de se rappeler le nom de la ville où les Sœurs Bleues étaient censées se trouver. De rage, Ninevée agita trop fort sa branche d'origan des marais, qui se désintégra en une multitude de petites plumes blanches. Depuis le temps, les sœurs n'étaient sûrement plus au même endroit de toute façon. Mais à part Théar, c'était le seul lieu où Elaine et elle pourraient se sentir en sécurité. à condition qu'elle se souvienne de son nom. Une seule bonne chose était sortie de cet interminable voyage vers le nord. Elaine avait cessé de faire sa coquette avec Tom. Plus le moindre incident depuis que les quatre voyageurs s'étaient joints à la caravane. Hélas, histoire sans doute de gâcher la fête, Elaine faisait mine de prétendre qu'il ne s'était jamais rien passé. La veille, quand Ninevé l'avait félicité d'être revenue à la raison, la fille héritière s'était dressée sur ses ergots.
« Essaies-tu de savoir si je serai un obstacle entre Tom et toi, Ninevé ? Il est un peu vieux pour toi, non ? Et je croyais que ton cœur était engagé ailleurs. Mais tu es assez grande pour mener ta vie comme tu l'entends. J'aime bien Tom, et je crois que c'est réciproque. Je le vois un peu comme un second père. Mais si tu veux le séduire, tu as ma permission. Cela dit, je t'aurais cru d'une nature plus... constante. »
Luca avait l'intention de traverser le fleuve dès le lendemain matin. Et Samara, la ville qui se trouvait de l'autre côté, au Galdan, n'était pas un endroit idéal. Depuis leur arrivée, Luca y avait passé le plus clair de son temps afin d'avoir un emplacement pour donner sa représentation. Redoutant que d'autres ménageries l'aient précédé, il savait, en outre, qu'il n'était plus le seul à présenter des numéros d'artistes en plus de ses animaux. C'était pour ça, en partie, qu'il avait insisté pour que Ninevé serve de cible à Tom. Une chance qui n'est pas exigé qu'elle fasse l'andouille en hauteur avec Elaine. Pour Luca, une seule chose comptait. Sa troupe devait être la plus grande et la meilleure du monde. Ninevé avait des préoccupations bien différentes. Par exemple, elle s'inquiétait de savoir que le prophète était à Samara, ses partisans grouillant en ville et tout autour, où ils s'entassaient sous des tentes ou dans des huttes et des baraquements. Une ville autour de la ville qui finissait par devenir plus grande que Samara, pourtant d'une taille non négligeable. Dotée d'un haut mur d'enceinte, cette cité comptait pour l'essentiel des bâtiments en pierre, très souvent de trois niveaux, et on y trouvait beaucoup plus de toits de tuiles ou d'ardoises que de chaumes. La rive de l'Eldar où s'était arrêtée la caravane n'était guère plus accueillante. Avant d'atteindre son emplacement, la ménagerie était passée devant trois grands camps de capes blanches, et il devait à coup sûr y en avoir d'autres dans le coin. Les fils de la lumière d'un côté, et de l'autre, le prophète, et le risque que des troubles éclatent à tout moment. Pour tout arranger, Ninevé n'avait aucune idée de sa destination, et pour l'atteindre, elle disposait seulement d'une roulotte branlante qui ne parvenait pas à rouler plus vite qu'elle marchait. Pourquoi s'était-elle laissée convaincre par Elaine d'abandonner le coche? Ne voyant plus le moindre brin d'herbe à décapiter, en tout cas sans être obligée de faire un détour, Ninevé cassa en plusieurs bouts sa branche d'origan des marais et jeta les fragments sur le sol. Que n'aurait-elle pas donné pour faire subir le même traitement à Luca, et à Galad à Modred, qui les avait contraints à fuir, et à Lan, parce qu'il n'était pas là, tout simplement. Non qu'elle ait besoin de lui, bien entendu, mais sa présence l'aurait réconforté. Alors que des feux de cuisson brûlaient près de tous les chariots, le camp était remarquablement paisible. Jetant d'énormes morceaux de viande à travers les barreaux de la cage, Petra était en train de nourrir le lion en crinière noire. Dans leur cage, les lionnes s'étaient déjà attaquées à leur repas, grognant dès que quelqu'un s'approchait un peu trop. Ninevé s'arrêta près du chariot d'Aludra. Assise à une table, à côté du véhicule, l'illuminatrice s'affairait à jouer du pilon, écrasant dans un mortier une substance mystérieuse qui l'incitait à marmonner entre ses dents d'incompréhensibles commentaires. Trois membres des Tchavana sourirent à Ninevé et lui firent signe de les rejoindre. Broug ne se joignit pas à eux, toujours furieux à cause de sa lèvre tuméfiée, même si l'ancienne sage-dame lui avait donné un onguent très efficace contre les hématomes et les enflures. Si elle frappait si fort les autres acrobates, écouterait-il enfin Luca, et surtout la principale intéressée, et croirait-il qu'elle n'avait rien à faire de leur sourire? En passant, on pouvait déplorer que Luca ne suive pas ses propres admonestations. Se détournant de la cage des ours, Latel gratifia Ninevé d'une sorte de rictus carnassier. Mais la jeune femme s'intéressait surtout à Serendine, occupée à limer les griffes d'un de ses esredites avec un outil qu'on aurait plutôt imaginé entre les mains d'un ferronnier.
« Cette femme se sert de ses mains et de ses pieds avec une remarquable habileté, »
dit Aludra.
« Ne me regarde pas comme ça, Nana. Je ne suis pas ton ennemi. Tiens, c'est pour toi. Il faut que tu essaies mes nouvelles tiges à feu. »
Utilisant les deux mains, même si une seule aurait en théorie suffi, Ninevé prit délicatement la boîte noire que lui tendait la femme aux cheveux noirs.
« Des tiges à feu? Tu ne parlais pas plutôt d'allumettes ? Eh bien, oui. Et non. Tiges à feu, c'est quand même plus évocateur, non ? J'ai lissé les petits trous où les tiges viennent se loger, afin qu'il n'y ait plus d'ignition accidentelle. Une bonne idée, pas vrai ? Et les extrémités inflammables ont une nouvelle composition. Tu veux bien les essayer et me dire ce que tu en penses ? Oui, bien sûr. Merci. »
Ninevé s'éloigna avant qu'Aludra ait pu lui offrir une nouvelle boîte. Quant à la sienne, Elle la tenait comme si elle allait exploser, ce qui n'était absolument pas exclu. Aloudra avait fait essayer ses allumettes ou ses tiges à feu, le nom changeait sans arrêt, à tout le monde. Et on pouvait effectivement s'en servir pour allumer un feu ou embraser du bois. Hélas, les tiges pouvaient aussi s'enflammer toutes seules, si leurs extrémités rondes et grisâtres frottaient les unes contre les autres, ou contre n'importe quelle surface rugueuse. En ce qui la concernait, Ninevé avait décidé de s'en tenir au silex et à l'acier, voire à une bonne vieille boîte à feu. Julien intercepta la jeune femme avant qu'elle ait pu poser une pointe de chaussure sur le marchepied de la roulotte qu'elle partageait avec Elaine. Bien entendu, il regarda l'œil enflé de l'ancienne sage-dame, qui le foudroya du regard avec assez de conviction pour l'inciter à reculer, tout en ôtant son ridicule chapeau conique.
« J'ai traversé le fleuve, »
dit-il.
« Il y a une bonne centaine de fils de la lumière à Samara. Ils observent tout sous le regard soupçonneux de soldats du Gael'dan. J'ai reconnu un des fils, le jeune homme qui était assis en face de l'auberge à Sienda. »
Ninevé sourit à Julien, qui recula comme si elle allait le mordre. Galad, à Samara, la cerise sur le gâteau.
« Tu nous apportes toujours de si merveilleuses nouvelles, Julien. Nous aurions dû te laisser à Tanchico, ou mieux encore, sur le quai, à Théar. »
Une remarque des plus injustes. Mieux valait être informé de la présence de Galad que le croiser par hasard au détour d'une rue.
« Merci, Julien. Au moins nous saurons de qui nous méfier. »
Acquiesçant un peu sèchement, après avoir reçu de tels compliments, Julien s'éloigna en remettant son chapeau, pressé comme s'il avait eu peur de prendre des coups. Décidément, les hommes n'avaient aucune éducation. À l'intérieur, la roulotte était nettement plus propre qu'au moment où Tom et Julien l'avaient achetée. La peinture écaillée avait disparu, un travail que les deux hommes avaient accompli en râlant ferme. Et les meubles rivetés au sol, des placards et une petite table, scintillaient à force d'avoir été cirés. Le fourneau équipé d'une cheminée en métal ne servait jamais. Les nuits étaient agréablement chaudes, et s'ils commençaient à cuisiner ici, Tom et Julien ne voudraient plus jamais procéder autrement. Mais ils faisaient un excellent coffre-fort pour leurs objets de valeur. Les bourses, les boîtes à bijoux et la bourse en peau de chamois contenant le seau. Cette dernière, Ninevé l'avait poussée aussi loin que possible dans le fourneau, et elle ne l'avait plus touchée depuis. Assise sur une des couchettes, Elaine glissa quelque chose sous la couverture dès qu'elle aperçut Ninevé. Puis elle s'exclama.
« Ton œil, que t'est-il arrivé ?»
Remarquant que les cheveux d'Elaine blondissaient à la racine, Ninevé nota qu'il faudrait les teindre de nouveau à la bourse de Capucin, une opération qu'il convenait de renouveler tous les 3 ou 4 jours.
Sérandine m'a frappé alors que je ne m'y attendais pas,
marmonna Ninevé. Le souvenir d'une certaine infusion de chien-dent à chat et de poudre de Mavine incita sa langue à se recroqueviller dans sa bouche. Cela dit, ce n'était pas pour ça qu'elle avait laissé Elaine aller à leur dernier rendez-vous dans le monde des rêves. Car enfin, elle n'évitait Gwen en aucun cas. Mais ayant fait presque toutes les incursions dans Telaran Riod, entre les rendez-vous, elle avait jugé équitable de laisser son tour à Elaine. Rien de plus normal, non ? Très délicatement, Ninevé rangea la boîte de tiges dans un placard, à côté de 2 autres. Celle qui s'était embrasée toute seule avait depuis longtemps été jetée. L'ancienne sage-dame se demanda pourquoi elle tentait de cacher la vérité. À l'évidence, Elaine n'avait pas dû sortir de la roulotte, sinon elle aurait été informée. Avec Julien, c'était sûrement la seule personne qui ne savait pas, depuis que Tom, sans nul doute, avait révélé à Luca jusqu'au plus sordide détail de cette affaire. Ninevé prit une grande inspiration, s'assit sur l'autre couchette et se força à soutenir le regard d'Elaine. Dans l'attitude de la fille héritière, tout indiquait qu'elle s'attendait à des révélations.
« J'ai interrogé Sérandine sur les Damanes et les Souldames, parce que je suis sûr qu'elle en sait plus long qu'elle veut bien le dire. »
Ninevé marqua une pause pour laisser le temps à Elaine d'émettre toute une série d'objections. D'abord des doutes sur sa façon de questionner les gens, qui tenaient souvent de l'interrogatoire, puis un petit sermon sur l'honnêteté de la Séanchanienne, qui leur avait déjà dit tout ce qu'elle savait, et enfin, un développement sur le fait qu'elle n'avait jamais été beaucoup en contact avec les Damanes et les Souldames. Mais rien ne vint. Déçue, Ninevé dut admettre qu'elle aurait trouvé bienvenue une petite polémique différant le moment pénible de sa confession.
Elle s'est échauffée, disant qu'elle ne savait rien de plus. Du coup, je l'ai un peu secouée. Elaine, tu as été trop amicale avec elle. Du coup, elle m'a brandi un index sous le nez.
La fille héritière ne broncha pas, sereine face à cette provocation. Mobilisant toute sa volonté, Ninevé parvint à ne pas détourner le regard.
Je ne sais trop comment, elle m'a projeté par-dessus son épaule. Quand je me suis relevé, je l'ai frappé. Elle m'a flanqué un coup de poing. Dans l'œil, au cas où ça ne serait pas évident.
Autant dire le reste. Elaine le saurait de toute façon, alors mieux valait qu'elle l'entende de sa bouche.
Je n'étais pas disposé à en rester là, tu t'en doutes. Nous avons continué à nous battre.
Un combat ? Pas vraiment. même si Nineveh n'avait pas capitulé. L'amère vérité, c'était que Serendine avait cessé de la battre comme plâtre parce qu'elle avait eu le sentiment de malmener une enfant. Et de fait, face à la Seanchanienne, l'ancienne sage-dame n'avait pas davantage fait le poids qu'une fillette. S'il n'y avait pas eu de témoins, étant largement assez en colère, elle aurait pu recourir au pouvoir. Mais des témoins, il y en avait eu à profusion. Nineveh regrettait que Serendine ne l'ait pas boxée jusqu'à ce qu'elle saigne.
Ensuite, la telle lui a passé une badine. Tu sais que cette femme rêve de se venger de moi.
Inutile de préciser que Serendine, à ce moment-là, lui maintenait la tête sur le bras d'attelage d'un chariot. Depuis ses 16 ans, quand elle avait jeté un pichet d'eau au visage de Neissa Ayelin, personne ne lui avait plus flanqué une telle correction.
Pour finir, Petra est intervenue.
Au bon moment. Le colosse avait pris les deux belligérantes par la peau du cou, comme des chatons.
Serendine s'est excusée, et ça s'est arrêté là.
Petra avait forcé la Seanchanienne à s'excuser, en réalité. Il avait également exigé que Nineveh le fasse, refusant de la lâcher tant qu'elle ne s'était pas exécutée. Furieuse, elle lui avait décoché un coup de poing dans l'estomac, et il n'avait pas bronché. En revanche, la main de la jeune femme semblait vouloir enfler aussi.
« Il n'y a rien d'autre à dire. Je suppose que la telle ne manquera pas cette occasion de déverser des horreurs sur moi. C'est elle, la femme, que je devrais secouer. Quand on s'est battu, je n'ai pas cogné assez fort. »
Soulagé d'avoir dit la vérité, Nineveh lut dans le regard d'Hélène une perplexité proche du doute qui l'incita à changer promptement de sujet.
« Qu'as-tu caché quand je suis entré ?»
Tendant un bras, Nineveh souleva la couverture et dévoila la dame que Serendine leur avait remis.
« Pourquoi contemples-tu cet objet ? Et si tu le contemples, pourquoi le cacher ensuite ? C'est une horreur, et j'ai du mal à comprendre que tu puisses le toucher. Mais si ça t'amuse, ne te gêne surtout pas. Allons, détends-toi un peu, »
lança Elaine avec un sourire presque enfantin.
« Je crois que je peux en fabriquer un. »« En fabriquer un ?»
s'écria Nineveh. Elle baissa le ton, craignant que quelqu'un vienne voir qui on égorgeait dans la roulotte.
« Pourquoi, au nom de la lumière ? Tu ne voudrais pas plutôt creuser une fosse d'aisance ? Au moins, ça sert à quelque chose. Je n'ai pas l'intention de fabriquer pour de bon un Adam, »
dit Elaine, le menton pointé comme chaque fois qu'elle décidait de regarder quelqu'un de haut.
« Mais c'est un Terangréal, et j'ai réussi à comprendre comment il fonctionne. Nineveh, je t'ai vu assister à au moins un cours sur ce que nous appelons le lien. Le collier lie les deux femmes. C'est pour ça que la Souldame doit elle aussi être capable de canaliser. »
Elle fronça les sourcils.
« Mais c'est un lien très étrange. Différent. Au lieu que deux femmes ou plus s'associent, l'une jouant le rôle du guide, c'est une domination absolue. C'est pour ça, je crois, qu'une Daman ne peut pas agir contre la volonté de sa Souldame. Franchement, je crois que la chaîne ne sert à rien. Le collier et le bracelet fonctionneraient de la même façon sans elle. Fonctionneraient de la même façon,
répéta Nineveh.
Tu as étudié la question de près pour quelqu'un qui n'envisage pas de fabriquer un collier.
La fille héritière n'eut même pas l'honnêteté de rougir.
Qu'en feras-tu si tu réussis ? Je ne pleurerai sûrement pas si tu mets un collier autour du cou de Laïda. Ça ne rend pas cet objet moins répu. Tu ne comprends donc pas ?
S'écria Elaine, l'enthousiasme balayant son arrogant hauteur. Se penchant en avant, elle posa une main sur le genou de Nineveh et eut un sourire plein d'autosatisfaction.
C'est un Terangréal, Nineveh, et je pense pouvoir en fabriquer un.
Détachant bien chaque mot, Elaine ponctua cette déclaration d'un joyeux éclat de rire.
Et si je peux fabriquer celui-ci, je peux en fabriquer d'autres. Peut-être même des angréales et des saangréales. Depuis des milliers d'années, aucune pensionnaire de la tour n'a été capable de ça.
Elaine se redressa, frissonna et se tapota la lèvre inférieure.
Je n'avais jamais songé à créer quoi que ce soit. Enfin, quoi que ce soit d'utile. Je me souviens avoir vu un jour un artisan qui fabriquait des chaises pour le palais. Étant destinée au réfectoire des serviteurs, elles n'étaient ni sculptées ni dorées à leur fin. Pourtant, de la fierté brillait dans les yeux de cet homme. La fierté du travail bien fait. Un sentiment que j'aimerais partager, je crois. Si nous avions seulement une fraction du savoir des rejetés. Pour eux, l'âge des légendes n'a presque pas de secret, et ils mettent leur connaissance au service des ténèbres. Imagine ce que nous pourrions faire avec ces trésors. Ce que nous serions en mesure de créer.
Elaine laissa retomber sa main sur ses genoux, son enthousiasme intact.
Quoi qu'il en soit, je parie que je serai capable de déterminer comment Pont Blanc fut bâti. Des édifices semblables à du verre filé, mais plus solides que l'acier. Il y a aussi le Quendillard et un peu de calme,
lança Nineveh.
Pont Blanc est à 200 bonnes lieues d'ici. Et si tu envisages d'utiliser le pouvoir sur le sceau, oublie ça tout de suite. Qui sait ce qui se passerait ? Le sceau restera dans sa bourse, au fond du fourneau, jusqu'à ce que nous lui trouvions une cachette plus sûre.
L'enthousiasme d'Elaine avait quelque chose de très étrange. Ninevé n'aurait pas craché sur une partie des connaissances détenues par les rejetés. Pour sûr que non. Mais quand il lui fallait une chaise, elle payait un menuisier. À part des onguents et des cataplasmes, elle n'avait jamais eu envie de fabriquer quoi que ce soit. Vers ses 12 ans, sa mère avait renoncé à lui apprendre à coudre, lassée de voir qu'elle se fichait comme d'une guigne que ses poings soient bien droits ou non. Quant à la cuisine, eh bien, elle ne se débrouillait pas mal, mais elle préférait se concentrer sur des activités importantes, comme la guérison. N'importe quel homme étant capable de construire un pont, pourquoi aurait-elle dû s'en mêler ?
« Avec tes histoires d'Adam, » dit-elle à Elaine. « J'ai failli oublier de te dire. Julien a vu Galad de l'autre côté du fleuve. »« Par le sang et les maudites cendres !»
s'exclama Elaine. Voyant l'ancienne sage-dame plisser le front, elle attaqua avant d'être obligée de se défendre.
« Inutile de me servir un sermon sur mon langage, Ninevé. Qu'allons-nous faire ?»« Eh bien, nous pouvons rester sur cette rive et éveiller la curiosité des capes blanches, qui se demanderont pourquoi nous ne suivons pas la ménagerie. » Ou traverser le pont en espérant que le prophète ne déclenchera pas une émeute et que Galad ne nous dénoncera pas. Il y a aussi la solution d'acheter une barque et de ramer. Des choix pas très excitants. Et Luca exigera dans tous les cas ses 100 couronnes d'or.
Ninevé tenta de ne pas foudroyer sa compagne du regard, mais ça ne fut pas très réussi.
Tu les lui as promises, et il ne serait pas honnête de nous défiler sans le payer.
Si elle avait su où aller et comment, l'ancienne sage-dame ne s'en serait pas privée en réalité.
Pour sûr, ça ne serait pas honnête,
fit Elaine, choquée.
En ce qui concerne Galad, nous n'aurons pas à nous en inquiéter tant que nous serons avec la ménagerie. Il n'en approchera pas. À ses yeux, mettre des animaux en cage est cruel. Les chasser et les manger ne le dérange pas, mais les savoir en captivité...
Ninevé secoua la tête. En réalité, si elles avaient eu un moyen de partir, Elaine aurait tout fait pour rester un peu plus, ne serait-ce qu'un jour. Tout ça parce qu'elle voulait faire son numéro de voltige devant un vrai public, pas sous l'œil des autres artistes. Du coup, Ninevé allait devoir se laisser de nouveau prendre pour cible par Tom.
Peut-être, mais pas question de porter cette robe de malheur. Nous louerons le premier bateau assez grand pour transporter 4 personnes. Le commerce fluvial ne peut pas être totalement interrompu. Savoir où nous allons nous serait très utile,
fit Elaine, mi-figue, mi-raisin.
Nous pourrions aller tout simplement à Théar, sans rester fixés sur l'autre destination parce que tu es...
La fille héritière ne finit pas sa phrase, mais Ninevé devina ce qu'elle allait dire.
Parce que tu es têtue comme une mule.
Têtue, elle? Parce qu'elle enrageait de ne pas pouvoir se souvenir d'un nom? Un fichu nom qui aurait probablement refusé de lui revenir à la mémoire sous la torture? Un nom qui... Des calomnies, tout ça. Elle entendait simplement trouver des Aes Sedai susceptibles d'aider Rand, afin de les conduire jusqu'à lui. C'était quand même plus reluisant que d'aller se réfugier à Théar, la queue entre les jambes.
« Ce nom me reviendra, »
affirma-t-elle. « Je sais déjà qu'il finissait en bar.
Ou en dar ?» Peut-être en lard. Je trouverai bien avant que tu en aies assez de jouer les funambules. Et pour la robe, c'est non, non et non.